New Wave, l'émission. Petite chronique dans vos listes d'albums. Aujourd'hui, Nico. Bonjour et bienvenue sur Radio U, où je vous invite à découvrir, ou à redécouvrir, des groupes issus du mouvement New Wave, vus par le prisme chronologique de mes découvertes d'albums durant la décennie 80-90 et agrémentés de quelques souvenirs personnels. Après John Lydon et son groupe Public Image Limited, ou plus succinctement PIL, émission à écouter en podcast sur le site de Radio U, pour cette nouvelle chronique, je vais évoquer une femme qui n'est pas classée dans les artistes des années New Wave. Pourtant, elle a ouvert des pistes de travail sur le côté obscur de la force et influencé certains groupes issus de cette scène des années 80, que cela soit par sa participation au sein du Velvet Underground ou pour son travail en solo sous le pseudo de Nico. Nico, ou Christa Paffingen, est mannequin, actrice, pour entre autres la Dolce Vita de Fellini, ou striptease de Jacques Poitrenaud. Excusez du peu, chanteuse et auteure-compositrice allemande, née en 1938 à Cologne. Elle a également publié un recueil de poèmes intitulé « Chemin d'une vie » et « Quelle vie ». Pour ceux ou celles qui lisent un peu la presse People, elle est violée à l'âge de 15 ans par un sergent de l'US Air Force et a aussi eu un fils, prénommé Harry, avec Alain Delon, que ce dernier n'a pas reconnu et qui est en partie élevé par la mère de l'acteur. En 1964, Nico rencontre Brian Jones des Rolling Stones et en mai 65, elle enregistre son premier titre en anglais, I'm Not Saying, reprise par Jimmy Page du compositeur Gordon Lightfoot sur un single produit par Brian Jones. Trois années plus tard, changement de style. Nico chante sur le premier album du Velvet Underground de 1967, celui qui donne la banane, enfin si on peut dire, c'est Warhol, alors manager du groupe et son assistant Paul Morrissey, qui l'impose aux Velvet après l'avoir fait tourner dans leurs films expérimentaux. Elle a une voix grave, une troublante beauté, et traîne dans ses valises un profond désespoir. Mais comme il est indiqué sur la pochette de l'album, Velvet Underground et Nico, c'est bien deux entités qui se font face, et Nico ne fera jamais tout à fait partie du groupe. D'ailleurs, elle prend vite la poudre des Scampettes, la poudre tout court aussi d'ailleurs, pour suivre son chemin et créer selon ses envies. De ce passage restera une belle amitié avec John Cale, qui l'accompagne dans sa future carrière de chanteuse, comme musicien et producteur.
Gone to play you for a
Sorti en octobre 1967, Chelsea Girls est son premier album solo, sur lequel on trouve des chansons écrites par Jackson Browne, Bob Dylan, Lou Reed, John Cale et Tim Hardin. C'est un album de facture plutôt classique en termes de composition et d'instrumentation. Sa voix se dépose sur des guitares folk avec des arrangements de cordes et de flûtes qui lui sont imposés par le producteur Tom Wilson et l'arrangeur Larry Fallon. Vous êtes bien sûr Radio U pour l'émission New Wave 101.1. Le disque qui suit, The Marble Index, de 1969, est cette fois conçu par Nico, chant et harmonium, et quel autre instrument. Et c'est une toute autre histoire. La pochette est assez explicite, avec un portrait très resserré de Nico aux cheveux bruns. Elle nous fixe d'un regard pénétrant, décidé, et semble nous dire qu'à partir de maintenant, c'est bien son univers et sa poésie qu'elle va chanter. Côté musique, c'est aussi un changement radical d'orientation, avec la prédominance de l'harmonium qui donne une touche sombre au morceau qui frôle parfois l'expérimental. Le troisième album, Desert Shore, en 1970, est la bande-son du film La cicatrice intérieure du réalisateur Philippe Garrel. Cinéaste indépendant et expérimental, celui-ci l'invite à jouer dans son nouveau film. Pour résumer, c'est un peu l'image d'Épinal que l'on se fait du cinéma expérimental. Un scénario incompréhensible, avec un minimum de dialogue, de longs plans fixes, un jeu d'acteurs plus qu'approximatif, et des longueurs qui vous font pleinement ressentir l'inconfort des sièges des cinémas d'arrêt et d'essai. Nico se fait pardonner par sa performance en composant la musique du film. Les moments où le silence laisse la place à son chant monotone et son harmonium sont ceux où le film bascule dans une atmosphère onirique, glaciale et pathétique. À noter le titre My Only Child, poème inquiet empli d'un amour désespéré pour son fils Harry, mais conscient de son existence fragile. Harry chante en français la chanson qui suit, Le Petit Chevalier. Elle ne dure guère plus d'une minute, mais laisse une impression saisissante. « Je ne peux pas me effroyer », fredonne l'enfant d'un ton appliqué, forcément attendrissant, et si l'on tend l'oreille, on entend sa mère lui souffler le dernier vers « J'irai te visiter ».« J'irai te visiter », répète-t-il comme la promesse d'un futur fantôme, car Nico ne sera, de par son mode de vie et ses problèmes avec la drogue, qu'une maman par intermittence. Lorsque j'écoute cet album, je pense au Moyen-Âge, j'imagine une femme, triste troubadour, allant de village en village, chanter autour d'un feu ses humeurs sombres.
Thank you. Falcon is sitting on his summer sand at dawn, unlocking flooded silver cages. And with a silver dinner rise, and the lovely silver traces erase my empty pages.
Je suis le petit chevalier avec le ciel dessus mes yeux. Je ne peux pas me effrayer. Je suis le petit chevalier avec la terre dessous mes pieds. J'irai te visiter.
Suite à cet album qui s'est très peu vendu, il faudra attendre 4 années pour la retrouver avec l'album The End. Il contient une reprise des Doors, The End, Jim et Nico ayant eu une liaison amoureuse. Et la chanson You Forget to Answer raconte la douleur ressentie par Nico à l'annonce de la mort de Jim Morrison. John Cale et Brian Eno sont aux instruments, l'harmonium se mélangeant maintenant avec les synthétiseurs. On trouve également une curiosité, l'hymne national allemand, revisité, qui clôture l'album.
When I remember what to say.
L'opus suivant, Drama of Exile, ne paraît qu'en 1981. Sur ce disque, la production est très typique du son des années 80, avec un style très new wave, son de la basse et partie guitare. L'harmonium a disparu, laissant place à des guitares au son saturé et au synthé. Il y a deux reprises, une de Lou Reed, I'm Waiting for the Man, et une de Bowie, Heroes. Il me semble même que ce dernier aurait pu chanter certaines chansons de ce Drama of Exile, qui font parfois penser à son Lodger, paru en 1979, et qui est peut-être une inspiration pour la chanteuse. En tout cas, c'est le retour au format chanson pour Nico.
Oh,
J'ai une petite préférence pour les titres Purple Lips et The Sphinx aux guitares arabisantes. Le seul bémol est la durée de l'album qui me semble un peu courte. En effet, après tant d'années d'absence, on aurait aimé plus de morceaux originaux. Les deux reprises citées plus haut, n'apportant pas grand-chose au propos, et sont à remiser à la longue liste des reprises moins inspirées que les versions originales de Lou Reed et de Bowie. Mais ce n'est là que mon point de vue. À l'époque, j'écoute cet album au milieu des autres productions de Siouxsie and the Banshees, Dan Clark, des Cocteau Twins ou de Dead Can Dance. Car j'y retrouve cette sensibilité, cette douleur, cette tentative de transcender les choses par l'art. Mais aussi cette difficulté de vivre, de trouver une place dans ce monde des adultes. Bref, des questions existentielles présentes dans mon quotidien. Je n'ai pas eu la chance de voir Nico en concert. Et d'ailleurs, je ne sais pas si une tournée fut organisée pour la sortie de cet album. Sa dernière production, Camera Obscura, de 1985, est pour moi une synthèse de son travail, à savoir voix grave, harmonium, synthétiseur, percussion, expérimentation. C'est un disque à la fois abordable, profond, sensible et exigeant, bref, tout le portrait de Nico. En 2020, sort une John Peel Session de la BBC, datant de 1971. Malheureusement, nous ne saurons pas ce qu'elle nous aurait proposé comme musique et vers quel univers elle nous aurait transporté par la suite. À 49 ans, elle décède d'une hémorragie cérébrale à la suite d'une chute de vélo à Ibiza, le 18 juillet 1988. Putain de gravillon, aurait pu chanter Renaud, notre chanteur énervé national. Elle est inhumée près de sa mère au cimetière des Sans-Noms à Berlin, elle qui s'était choisi un prénom de garçon pour identité. Reste une œuvre vraiment à part dans le monde du rock, un sillon creusé en marge, authentique et sans concession, qui force le respect et mérite notre attention. Merci pour l'écoute et merci à toute l'équipe de Radio U. Prochaine émission, Minimal Compact.